le soleil.
Eh bien, vous l'avez entendu avec Mario B en Outaouais, la caméra qui s'est allumée accidentellement. La caméra du député libéral de Pontiac, William Amos, qui s'est retrouvé donc flambant nu en plein zoom. Puis là, il y a une, je pense, une collègue du Bloc québécois, là, député du Bloc québécois, oui, qui a dit, ben là,
j'ai sorti l'audio,
faudrait faire attention, faudrait faire attention au décorum. Et voilà. Tu sais, c'est assez. En tout cas, caméra par accident, c'est ça qui.
Ah, ben, je le crois, mais come on, fais attention.
Oui. Bon,
tout nu dans ton bureau.
Ça donnait bien, le cellulaire devant le sexe aussi. Puis bon, en tout cas, on en reparlera peut-être. À 10h32, on va aller retrouver notre collègue chroniqueur, Myriam Segal. Salut, Myriam!
Allô?
Myriam, tu voulais nous parler, puis moi, j'ai pas été surpris de voir ça hier, là, du U-turn salutaire de François Legault sur le port du masque.
Non, puis il y a des gens qui disent, ah, oh, c'était planifié, c'est parce qu'il voulait bien paraître, puis là, il souffle le chaud et le froid. Moi, je pense pas, sincèrement. Mais qu'il ait le courage ou qu'il ait le... Ouais, je pense que c'est une forme de courage de faire demi-tour quand il s'est trompé. C'est une bonne chose. Moi, j'aime ça. Cependant, il faut comprendre qu'actuellement, François Legault est victime du manque de rigueur scientifique de la santé publique. Je vous l'ai dit il y a quelques semaines, moi, la santé publique, je me méfie d'eux autres comme de la peste, notamment depuis l'épisode de la légionellose à Québec, où ils ont été en dessous de tout et où il a fallu payer des millions de dollars de dédommagement aux victimes de la légionellose. Et ces gens-là, autrefois, c'était des gens qui nous faisaient gentiment la morale. Or, pour faire ça, tu as besoin d'un bon communicateur et leur directeur de santé publique, Arruda, était un bon communicateur. C'est pour ça, d'ailleurs, que les gens l'ont tellement aimé en mars 2020.
Au début, oui.
Au début, en mars 2020, avec ses histoires de courbes puis ses tartelettes portugaises, les gens l'aimaient, c'était un bon communicateur. Sauf qu'à un moment donné, il faut avoir aussi de la substance. Et visiblement, la santé publique manque de substance actuellement, de substance scientifique. Tu sais, j'ai eu une longue argumentation ce matin encore en ligne, là, sur Messenger, avec quelqu'un qui minimise, c'est pas une complotiste, mais c'est sur le bord, là, elle minimise de façon très, très systématique tous les chiffres qui sont donnés. Ça vient du fait que au début de la pandémie, on a compté tous les morts en CHSLD comme des morts de la COVID, alors que certains sont morts d'autres choses. Ça, là, tu plombes déjà tes statistiques. Ensuite, il s'est mis à dénigrer les masques. Puis ensuite, la santé publique a dit le N95 dans les milieux de santé, c'est pas vraiment nécessaire. Finalement, ils ont dit, ben oui, c'est nécessaire. Puis là, quand on le questionne sur le couvre-feu, l'efficacité du couvre-feu, il n'y a pas de chiffres. C'est pas compliqué, va chercher les chiffres dans les pays où il y a des couvre-feux, puis sors-les. Quand on lui dit le masque à l'extérieur, c'est quoi l'utilité, il n'y a pas de chiffres. Il parle, mais il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas d'objectif quantifié de, tu sais, est-ce qu'on va revenir à la normale dans la région de Québec quand on va faire 5 jours en bas de 100 cas par jour? C'est tout ça, là, le critère. Alors, la faiblesse scientifique de la santé publique est en train de plomber le goût. Puis il doit être en sacrement.
Moi, ça fait plusieurs fois que j'en parle ici à l'émission, Myriam. Et pour en avoir discuté avec des gens de l'entourage de François Legault, ils me disent c'est pas le temps de changer de général en plein milieu de la guerre. Non, non. Mais moi, il reste que la santé publique, les gens sont venus à penser que c'est à peu près l'affaire d'un seul homme. T'sais, c'est Horacio Arruda, alors que ce sont des centaines, voire même des milliers de personnes qui sont derrière ça. Mais c'est lui le visage de la santé publique. Et je trouve que quand on fait la liste des exemples de manque de cohérence, etc., un peu comme tu viens le faire, moi, je veux bien accepter qu'au début de la crise, bon, on était en évolution, on connaissait pas trop ça. Mais juste dans les dernières semaines, le nombre de fois que le docteur Arruda met le gouvernement sur la défensive, dans l'embarras, engage une espèce de flou, moi, je me dis, il serait peut-être temps de le changer, là.
Mais ils viennent de le re-signer pour 3 ans.
Non, c'est pas grave, tu l'envoies ailleurs.
Précisément que tu changes pas de général en pleine tempête. Là. Tu changes pas de capitaine en pleine tempête. Mais moi, je pense qu'il faut lui adjoindre un scientifique qui va lui donner des données scientifiques. Parce que Arruda, de par sa fonction de directeur de la santé publique dans le passé, je vous rappelle, là, la santé publique, avant la pandémie, c'était des gentils moralisateurs qui essayaient de nous convaincre de pas grossir et d'arrêter de fumer. C'était ça, la santé publique, avant, là. Ils n'ont jamais été capables de gérer une crise. Ils en ont eu une avec la légionellose, puis ça a foiré. Alors, ils ont choisi comme directeur de la santé publique un communicateur parce que c'est de ça qu'ils avaient besoin. Là, maintenant, on a besoin, pour maintenir l'adhésion, de cohérence et d'un peu de rigueur scientifique. Alors, il faut lui adjoindre quelqu'un qui a cette rigueur scientifique. Je sais pas qui, là.
Oui, c'est ça.
Nommez-y quelqu'un qui va lui donner des arguments scientifiques. Quand on lui demande c'est efficace comment le couvre-feu, ben dites-moi que, par exemple, en France ou en Angleterre, ou peu importe, là, allez chercher des exemples de couvre-feu, puis d'effet que ça a eu. T'sais, il ne faut pas arrêter de convaincre. On dirait que à la santé publique, ils sont rendus à se dire, bon, on va leur dire de faire ça, puis ça va suffire. Non, ça suffit pas. Chaque fois que tu prives quelqu'un d'une liberté, tu dois le convaincre que c'est utile de se priver de cette liberté.
Oui, oui, oui. Mais en même temps, des fois, je me demande, est-ce qu'on est encore capable de réfléchir par nous-mêmes? Je ne sais pas si tu as vu Myriam ce matin dans le Journal de Québec, dans le Journal de Montréal aussi, là. Le poster sur deux pages, là, qui est à l'intérieur de la couverture, là. Le guide pour savoir si vous devez porter le masque. Là, il y a une série de consignes, si je suis à l'intérieur, si je suis à l'extérieur. Alors que Legault, tantôt, je trouve qu'il a très bien simplifié ça en disant à l'extérieur, là, si vous êtes à moins de 2 mètres, là, si vous n'êtes pas capable de garder le 2 mètres avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est peut-être une bonne idée de porter le masque. Sauf que le problème, c'est que ça en prend des consignes claires et de la cohérence pour pas perdre l'adhésion. Mais en même temps, c'est juste le gros bon sens aussi à un moment donné.
La consigne de Legault est très, très claire. Ouais. Moi, j'ai aucun problème avec sa consigne. La consigne de la santé publique qui visait à faire en sorte que tout le monde portait un masque dans toutes les circonstances, y compris ceux qui forniquent à la maison devaient porter un masque dehors quand ils étaient ensemble. Il y avait là quelque chose qui était plus proche du contrôle. T'sais, le but était de faciliter la tâche aux policiers pour te donner des tickets. Le but de la pandémie, c'est pas de donner des tickets.
C'est de limiter
c'est d'éviter
les virus.
Que les gens soient malades.
Ben oui.
Alors, actuellement, Legault, son problème, là, c'est le manque de rigueur scientifique de la santé publique. Et ça, c'est un effet du fait que, depuis des années, la santé publique, ce n'est pas un général. C'est tout au plus un agent de bord.
Pendant ce temps-là,
ça sert le café, là, mais ouais, ça n'a jamais piloté le 747.
Pendant ce temps-là, Myriam, les négociations avec le secteur public se poursuivent. Hier, il y a eu des moyens de pression de la CSQ, de beaucoup d'enseignants au Québec. Très tôt ce matin, il y a la FAE qui a publié un communiqué de presse pour dire qu'il y avait une espèce de projet d'entente, c'est pas encore une entente de principe, mais qui était survenu avec le Conseil du Trésor. Ça, ce sera soumis aux instances de la FAE au cours des prochaines heures. S'ils approuvent ça, là, ça va devenir une entente de principe qui éventuellement pourrait être avalisée ou non par les membres. Ça représenterait 50% des enseignants et des enseignantes là, qui se seraient entendus avec le gouvernement. Bref, on sent que ça avance, mais ça avance pas beaucoup les négos dans le secteur public non plus.
Ben écoute, c'est toujours le même scénario, mais je suis tannée de ce film-là. J'ai tellement hâte qu'on casse ce moule-là où il faut que les gens se fâchent, fassent une espèce de deux, trois journées de grève qui sont un peu artificielles parce que pour obtenir ces mandats de grève-là, le syndicat leur promet toujours qu'ils perdront pas d'argent. Moi, je me rappelle, là, j'ai voté, tu sais, j'ai eu à voter, moi, dans ma petite carrière de professeur, à un moment donné. J'ai voté contre les grèves parce que je trouvais que les profs de cégep étaient bien payés, mais qu'il fallait monter d'urgence le salaire des profs de secondaire.
Tu aurais dû te présenter au syndicat, Myriam. T'aurais été bonne, me semble.
Écoute, j'ai été à une assemblée syndicale, à un moment donné, où évidemment, j'ai voté contre les mesures, donc je suis déjà un peu paria. Mais en plus de ça, on me dit que le fonds d'aide aux membres, c'est comme ça qu'ils appelaient ça là en cas de grève, le fonds d'aide aux membres ne me sera accessible que si j'accepte de prendre une pancarte et d'aller manifester.
Ah ouais, c'est ça.
là, c'est pour ça que quand je vois des lignes de piquetage, là, je me dis combien d'entre eux le font parce qu'ils sont payés pour le faire.
Exactement ce que je me suis dit hier quand je suis passé devant la ligne de piquetage pas loin chez nous à Québec des profs. Il y en a une gang là-dedans qui n'avait pas le goût d'être là, je suis convaincu. Là.
Ben écoute, moi j'ai refusé d'aller manifester. J'ai dit, je me rallie à la position générale, je respecte la ligne de piquetage, j'accepte qu'on fasse la grève, même si j'ai voté contre. Mais vous pouvez pas m'obliger à faire semblant d'être pour, parce que ça brime ma liberté d'expression. D'autant plus que le fonds en question s'appelait un fonds d'aide aux membres et non pas un fonds de mobilisation obligatoire. Alors, quand je vois ces scénarios-là, de petites grèves, de 2-3 jours, je sais comment elles sont obtenues. Je sais que les gens, souvent, ils le font parce que leur syndicat leur dit, eh bien, on n'obtient de rien si on fait pas ça, etc. Il y a quelque chose dans ce scénario répétitif de vicier du côté syndical puis de vicier du côté patronal. J'ai jamais obtenu la réponse, mais combien coûte au côté patronal une période de négociation? Il y a des négociateurs professionnels payés à temps plein à coût de centaines de milliers de dollars pour faire une négociation, puis on le fait dans le dos du public. Ça, c'est l'autre chose. Pourquoi est-ce que la FAE ne rend pas public l'entente ou le projet d'entente qu'ils ont? Parce qu'on va le présenter à notre manière, à nos membres, quand ça va nous adonner, ouais, etc. C'est le public qui paye. C'est le public qui est censé être servi. Négocier en public, vous allez voir que ça va accélérer la négociation. Mettez une webcam au bout de la table. Ouais.
Myriam, écoute, c'est pas des farces. Ce matin, je parlais au gouvernement quand le communiqué est sorti pour essayer d'avoir un peu de détails. Puis là, il me disait, tu comprends qu'on va être très prudent, on se réjouira pas parce qu'on a peur que ce soit vu par les membres qui vont voter comme étant un signe que, ben voyons, on s'est fait fourrer. Si le gouvernement est content, c'est parce que clairement, on s'est fait avoir, on vote contre. Mais ils n'osent même pas dire qu'ils sont contents de tout. Tu sais, on en est là.
Mais pourquoi est-ce que c'est pas public? Moi, je ne comprends pas. Tu sais, on nous sert toujours l'argument, on négociera pas sur la place publique. You bet, négocier sur la place publique. C'est le public qui va payer. C'est le public qui est censé être bien servi par vos décisions. Voyons donc.
Ouais.
Depuis que j'ai jamais très bien compris, un des aspects positifs de la pandémie, à mon avis, c'est que les syndicats qui exigent toujours de faire des assemblées, puis de présenter à leur manière des documents qui ne sont pas distribués aux membres, les syndicats vont être obligés de changer un peu leur méthode à cause de la pandémie. Ils vont devoir faire des choses de façon plus virtuelle, puis peut-être bien qu'on va commencer à avoir des documents qui circulent avant les ententes.
Hey Myriam, il nous reste à peu près 2 minutes. Quelques mots. Tu voulais nous parler du dossier de la F1 à Montréal. Le promoteur veut 6 millions de dollars pour combler les pertes. Puis là, on comprend que François Legault ne sait pas trop quoi faire avec ça. Il y a la quarantaine obligatoire pour les pilotes, les équipes. Mais là, on comprend que François Legault ne veut pas perdre le contrat jusqu'en 2029 non plus. Il ne veut pas perdre le Grand Prix à long terme. Qu'est-ce que tu penses de ça, Myriam?
Je répondrais comme Pat Burns.
Ah oui?
Il mange la marde.
Ah oui? Tu vas jusqu'à là, toi? Il parlait de Shane Carson, lui. Toi, tu parles du Grand Prix.
D'abord, il y a quelque chose de très culotté de la part de ce successeur, de ce fantôme d'Ecclestone, de venir dire 6 millions, ben je viens pas. Ben viens pas, mon ami. Anyway, il y aura personne. On est en pandémie, puis il y aura personne pour te voir. L'autre chose qui est culottée, c'est, moi, la pandémie, oui, mais moi, mais mon personnel, non. Hey, on est en train d'obliger des snowbirds à faire 3 jours à l'hôtel puis 15 jours de confinement. Puis toi, puis des snowbirds qui sont pas forcément riches, parce que c'est une image fausse de penser que si tu as une résidence en Floride, t'es forcément riche, là. Puis toi, tu demandes un permis? No, oui.
Ouais.
Anyway, là, la Formule 1 a bien plus besoin de Montréal que Montréal a besoin de la Formule 1.
Ouais, ça, je sais pas, Myriam.
C'est la seule porte d'entrée en Amérique du Nord.
Ouais, mais ça, il y a des payeurs dans le monde qui en veulent des grands prix. Puis moi, je suis un peu d'accord avec toi sur cette année là, mais sur le long terme, pas sûr qu'on ait moyen de perdre ça, cet événement là, qui apporte de l'argent à neuf pour vrai, des touristes de la Nouvelle-Angleterre qui arrivent ici.
Eux n'ont pas les moyens de perdre leur seule chance de rentrer en Amérique du Nord.
Ouais, mais donc, maintenant ils vont aux États-Unis, puis bon.
Les États-Unis, ils ont déjà essayé, ça n'a pas le succès que ça a à Montréal. Et ce qu'ils espèrent à terme, c'est qu'à Montréal, à force de voir le Grand Prix de Montréal sur un fuseau horaire qui convient aux amateurs de F1 des États-Unis,
en prime time,
on va finir par pouvoir implanter quelque chose aux États-Unis. Alors, leur porte d'entrée pour l'Amérique du Nord, c'est Montréal. Pour cette année-là, honnêtement, c'est très culotté ce qu'ils font. Puis moi, je répondrais de façon très, très impolie à ce message. Regarde, là. Allez manger un peu de fertilisant.
Merci beaucoup, Myriam. Toujours un plaisir.
Salut.
Salut, bye. J'adore Myriam. Toujours le fun d'y parler. Sur le Grand Prix, je t'avoue que là, le temps file un peu, mais moi, sur le long terme, je pense que c'est un événement qu'il faut garder. C'est vraiment de l'argent à neuf. Moi, je vois toutes les années, puis c'est clair. Là. Puis les études le prouvent aussi. Dans les tribunes, dans les estrades, dans les restos le soir à Montréal, on est entouré d'amateurs de F1 qui arrivent de Boston, qui arrivent de New York, puis qui sortent la palette, qui dépensent les bouteilles de vin, les bouteilles de champagne, ici, les ça. c'est de l'argent à neuf qui entre pour vrai ça au Québec.
Quand et juste l'autre, peut-être, précision, subtilité, c'est que c'est pas l'organisation de la F1 qui demande le 6 millions. C'est les promoteurs québécois ici, là.
C'est
qui
ça.
Disent, nous autres, si on le fait quand même, on fera pas nos frais, on a besoin d'un 6 millions. C'est pas la gang à Ecclestone là, et ses successeurs. Mais quand même, c'est 6 millions d'argent public qu'on doit
décider. C'est ça, c'est Liberty Media maintenant.
Mais même à ça, moi, je pense que la question est réglée. Là. Fait que les mesures sanitaires,
cette année,
tout
parles,
ça, la F1, ils viendront pas. Là. Même si on donne 6 millions aux promoteurs, d'après moi, ça n'ira pas.
C'est ça, c'est juste l'inquiétude de François Legault, puis je les comprends, c'est qu'il y a une poignée pour briser le contrat qui est bon jusqu'en 2029. Parce qu'il y a beaucoup de pays au Moyen-Orient, il y a des pays en Asie qui veulent des grands prix. Puis je comprends la porte d'entrée en Amérique du Nord, je comprends très très bien, mais ils vont à Austin maintenant au Texas depuis quelques années. Il y a d'autres possibilités. Je pense que Toronto pourrait peut-être lever la main éventuellement aussi. On s'arrête quelques instants. Vous écoutez Trudeau Landry.
Trudeau Landry de retour